Cette campagne s'adresse à une seule communauté. C'est une campagne communautariste et ce n'est pas une façon de faire de la politique envers tous les Belges.
Car elles vont, disent-ils, dans le sens de l'intérêt général de la communauté nationale.
Depuis dimanche soir, l'Europe s'inquiète de la montée du populisme.
Nous écrivons l'histoire sociale dans nos luttes. Nous appartenons à la même classe. La classe travailleuse.
Il semble que ce soit là l'aboutissement d'une longue histoire, l'histoire des compromis à la belge.
Cet été, je me suis dit que ça valait la peine de prendre un peu de temps pour revenir sur des mots. Des mots qui sont là, omniprésents dans le débat public. Des mots qu'on s'envoie à la figure, comme populisme. Des mots qu'on brandit, comme lutte des classes. Des mots qui claquent, comme intérêt général. Je vous propose de prendre un peu de temps, le temps des mots, pour mieux comprendre que derrière se cachent des concepts souvent discutés, des significations multiples, des valeurs différentes. Je vous propose de surmonter les évidences, et si derrière les mots, on trouvait des questions de principe. Premier mot de notre série, intérêt général. Voilà bien une expression qui revient tout le temps. Le confinement du Covid, au nom de l'intérêt général. La réforme des pensions, au nom de l'intérêt général. La lutte contre les dérèglements climatiques, au nom de l'intérêt général. Oui, l'intérêt général semble comme l'horizon de la politique.
Il me semble que tous les partis politiques devraient viser l'intérêt général.
Caroline Sagesser, historienne, chercheuse au Centre de recherche et d'information sociopolitique.
Avoir évidemment des clés de lecture différentes, des opinions différentes quant à la façon dont on peut améliorer cet intérêt général, mais ça devrait être la base de leurs actions.
L'intérêt général devrait donc, selon Caroline Sagesser, être la finalité de toute action politique. Oui, mais encore faut-il s'entendre sur ce qui fait l'intérêt général. Et ça, c'est une question qu'on se pose depuis les Grecs et depuis que la philosophie existe.
Je dirais que une bonne part de tout le débat de la philosophie politique, pratiquement depuis ses origines, c'est peut-être, même en n'utilisant pas ce terme, c'est de se demander comment définit-on l'intérêt général.
Justine Lacroix, professeure d'histoire de la pensée et de théorie politique à l'ULB.
Qui peut aussi être la res publica, la chose publique. Qu'est-ce qui, au-delà des intérêts individuels, comment définir cet intérêt général ? Alors là, on peut donner, je dirais qu'il y a autant de courants philosophiques qu'il y a de définitions de l'intérêt général.
Autant de définitions qu'il y a de philosophie, aïe, voilà de quoi donner des mots de tête avant même de commencer. Bon, mais tentons l'exercice de dégager des tendances. Une première tendance serait de considérer que l'intérêt général, c'est l'intérêt de tous, de tous les membres d'une communauté. On pourrait alors parler d'intérêt universel.
Il pourrait en tout cas avoir une définition précise qui est la définition que donnent les économistes au terme de jargon un peu compliqué qui est la Pareto-supériorité.
Philippe Van Parijs, philosophe, professeur à l'UCL.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les économistes ils disent que une mesure, une réforme permet de créer une situation qui est Pareto supérieure à la situation présente si tout le monde y gagne, ou du moins si à l'exception de ceux dont la situation n'est pas changée, tous les autres y gagnent. Donc c'est une définition évidemment extrêmement exigeante parce qu'il y a très peu de décisions, de mesures, de réformes, etc. qui sont dans l'intérêt général au sens de l'intérêt universel, donc ce sens très exigeant de la Pareto-supériorité.
Et donc, reconnaît Philippe Van Parijs, cette définition universelle est très exigeante. Et donc, le plus souvent, notre notion de l'intérêt général est plus modeste.
Mais le sens le plus commun du terme, je crois, c'est celui qui identifie l'intérêt général à l'intérêt de la grande majorité proche ou lointaine. Par exemple, quand c'est un terme qui revenait constamment quand on a lancé l'opération Picnic the Streets au centre de Bruxelles pour obtenir la piétonnisation des boulevards centraux, eh bien, on disait, bien sûr, il y aurait des intérêts particuliers qui seront, qui qui ne seront pas servis aussi bien que certaines personnes le souhaiteraient, hein, des riverains, des commerçants, des personnes qui aiment bien se déplacer en voiture, mais néanmoins c'est dans l'intérêt général de la population bruxelloise dans son ensemble, mais aussi de tous ceux qui feront usage de cet espace à l'avenir, et par conséquent il s'agit de permettre d'encourager les politiques à prendre les décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général.
Bon, l'intérêt général, au sens le plus courant, serait donc l'intérêt d'une majorité de citoyennes et de citoyens. C'est donc l'addition d'intérêts particuliers, d'intérêts individuels, qui fait l'intérêt général. Cette idée, on la doit en particulier à un philosophe, Jeremy Bentham, un penseur anglais, majeur du XVIIIe siècle, fondateur de l'utilitarisme.
Au fond, lui, il se fondait sur, c'était pas l'expression d'intérêt général, c'était la notion d'utilité collective. Alors c'est quoi ? C'est qu'au fond, l'idée que toute politique devait être appréciée en fonction de ses conséquences pour l'utilité collective. Et comment est-ce qu'il définissait l'utilité collective ? Eh bien, c'était l'addition des intérêts individuels, mais chaque individu comptant pour un. Alors, ça donne lieu à des calculs très compliqués. Bentham avait mis au point un calcul de félicité qui permettait d'évaluer les maux et les biens de chaque politique en fonction de leurs conséquences pour les individus concernés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça pouvait être une politique qui ne conduisait pas du tout à un laisser-faire, laisser-aller, parce que ça pouvait demander une intervention active de l'État, justement pour élever le niveau de bien-être dans la société.
Donc, pour Bentham et les utilitaristes, une décision politique serait d'intérêt général si on peut calculer que ses conséquences augmentent le bien-être d'une majorité d'individus. Mais, vous l'aurez compris, ce n'est là qu'une école de philosophie politique. D'autres considèrent que l'intérêt général est plus que la somme des intérêts particuliers, qu'il serait possible de définir un intérêt supérieur, le bien commun.
Ce bien commun, c'est quoi exactement ? C'est quelque chose qui ne peut exister qu'en communauté. Ce sont les relations que nous créons entre nous en participant à cette vie commune qui constituent ce bien commun. Et essayer d'avoir une métrique qui permette de saisir ce bien commun pour le mettre en balance avec les différents intérêts particuliers, quelque chose qui n'a guère de sens. Et donc là, on a vraiment une notion, hein, celle de bien commun, qui est fondamentalement, je dirais, philosophiquement différente de celle d'intérêt général conçue comme une forme d'agrégation des intérêts individuels des membres de la société concernée.
Bon, nous voilà déjà avec deux grandes écoles. Une première considère que l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers, une majorité, ou dans l'idéal même, tous les intérêts particuliers. Une deuxième école parle plutôt de bien commun, un bien supérieur au calcul des intérêts particuliers, qui serait quasiment de l'ordre de la nature humaine, de la tradition ou de l'histoire. Par exemple, le respect de la dignité humaine serait un bien supérieur à tout calcul des intérêts particuliers. Bref, il y a débat sur la nature de l'intérêt général, mais il reste un troisième larron dans cette affaire, ceux qui considèrent que l'intérêt général n'existe tout simplement pas. C'est le point de vue que défend Karl Marx. Karl Marx et Xavier Dupré, économiste, penseur, marxiste, je lui ai demandé si la notion d'intérêt général avait du sens pour lui. Et sa réponse est claire.
Elle a du sens d'un point de vue descriptif. Elle dit quel est le sens de l'hégémonie de classe dans une société.
C'est-à-dire, faut traduire ça.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas... l'intérêt général, ou l'intérêt soit de la totalité d'une population, d'une majorité de la population... En fait, ça n'existe pas dans la société capitaliste contemporaine telle que nous la connaissons. Il existe avant tout des intérêts de classe. J'ai toujours cet exemple en tête. Lorsqu'en 2008, en un week-end, on sauve les banques, c'est-à-dire le capital, c'est du capital financier.
Et l'épargne de pas mal de gens.
Oui, mais c'est d'abord du capital financier.
Bien sûr.
Et on sort des milliards. Et cela faisait 10 ans que l'on parlait de financer davantage le fait que certaines femmes divorcées ne recevaient pas de pension alimentaire. par les pouvoirs publics. Donc, d'un côté, il n'y avait pas d'argent, de l'autre, il y en avait tout de suite. Il y a des intérêts de classe, il y a des priorités. Elles sont liées à l'accumulation du capital dans une société capitaliste. Vous me disiez que ça a sauvé l'épargne, je ne le nie pas. Je dis juste que c'est l'accumulation du capital qui était plus importante que certains droits sociaux. Et ça, c'est un fait.
Ce que dit Xavier Dupré, c'est le cœur de la pensée de Karl Marx. L'intérêt général, qui est censé justifier la décision politique, est une invention bourgeoise, destinée à cacher la nature réelle de la société, la lutte des classes, la lutte des dominants contre les dominés, du capital contre le travail. Vous voyez, derrière cette notion en apparence si tranquille d'intérêt général, se cache en réalité un débat philosophique ancien, profond et toujours actuel. Tiens, justement, en parlant de lutte des classes, ça tombe bien, ce sera au menu de notre deuxième épisode de Questions de principe.